Bien, je m'associe à Étienne pour souhaiter à tous et toutes de très joyeuses Pâques. C'est une joie de célébrer ensemble cet événement fondateur pour notre foi, la résurrection de Jésus-Christ. Et en parlant de la résurrection de Jésus-Christ et en la célébrant ensemble, nous ne sommes pas là pour parler d'une superstition ou d'un mythe. Nous sommes là pour parler d'un événement qui est si central pour notre foi que l'apôtre Paul pouvait s'exclamer dans sa première lettre aux Corinthiens. « Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » Et ajoute-t-il, « Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Et Paul avait bien raison. Nous déclarons que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Mais l'est-il seulement dans notre imagination? Nous chantons des cantiques pour le glorifier, nous le prions, nous lui adressons la parole. Et puis nous affirmons à nos contemporains qu'ils doivent eux aussi le rencontrer. Alors si Jésus n'entend ni ne voit rien de tout cela, parce qu'il est mort depuis longtemps, notre comportement relève de la pathologie. Mais en revanche, si Jésus est bien ressuscité, s'il est bel et bien Seigneur et Sauveur des hommes, alors c'est tout le contraire. Nous serions insensés de ne pas nous adresser à lui, de ne pas parler de lui, de ne pas vouloir le connaître et le reconnaître pour ce qu'il est. Les premiers chrétiens, comme beaucoup encore aujourd'hui, ont été prêts à souffrir la persécution, le mépris et souvent la mort au nom de cette proclamation selon laquelle Jésus est vivant. Ce matin, je ne vais pas recenser les nombreuses raisons qui nous permettent de dire avec beaucoup de confiance que la résurrection de Jésus est un événement historique. Et je n'hésite pas à utiliser ce mot, historique. Nous avons assez souvent abordé ces arguments le dimanche de Pâques. Il y aura d'autres occasions de le faire. Il est question d'une soirée du 72 l'an prochain qui, en partie, pourrait être consacrée à cela. Donc, je me contenterai de dire ce matin que lorsqu'on examine les quatre récits de la résurrection qu'on trouve dans les évangiles, dans leur convergence, mais aussi dans leurs différences, notamment des différences de détails, et quand on examine le comportement de la première génération chrétienne, on constate qu'il est extraordinairement improbable que ces récits aient été inventés de toutes pièces par des disciples qui voulaient à tout prix croire ou faire croire à une légende et qui auraient été prêts à aller jusqu'à la mort collectivement pour cette légende qu'ils auraient décidé ensemble d'écrire. Tout indique au contraire qu'il s'agit de récits qui reposent sur des témoignages oculaires. Ce matin, je voudrais vous inviter à examiner une petite partie de l'un de ces récits de la résurrection. C'est la section finale de l'évangile de Matthieu, section bien célèbre. Je vous invite donc d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. C'est à la page 972 des Bibles bleues, pour ceux qui souhaiteraient les utiliser. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce matin, nous allons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus change pour chacun d'entre nous? En quoi est-ce que cela nous concerne? Et nous allons essayer de voir ce que ce texte nous indique à ce sujet. Je relèverai trois points classiques. Trois points. Premièrement, parce que Jésus est ressuscité, les disciples surmontent leurs doutes. Deuxièmement, parce que Jésus est ressuscité, les disciples lui prêtent allégeance. Et troisièmement, parce que Jésus est ressuscité, les disciples deviennent ses témoins. Premièrement, donc, parce que Jésus est ressuscité, les disciples surmontent leurs doutes. Peu peu avant son arrestation, Jésus avait déjà dit à ses disciples qu'après sa résurrection, il les retrouverait dans la région de Galilée, région dont ils étaient originaires pour la plupart. Alors à ce moment-là, cette parole a été dite, mais ils ne semblent pas avoir été prêts, ses disciples, à l'entendre. Ils refusaient d'entendre parler de sa mort, et donc forcément, ils n'étaient pas prêts à entendre parler de sa résurrection. Mais l'apôtre Matthieu nous raconte au début de ce chapitre 28 que le dimanche matin, tôt, deux femmes, en se rendant à la tombe, ont trouvé la pierre roulée et un mystérieux messager gardant le tombeau qui leur annonce que Jésus était ressuscité. Et il leur confie ce rappel à l'attention des disciples, verset 7, « Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Or, Jésus avait choisi de faire de ces femmes ses premiers témoins. Et il se présente lui-même devant elles avec ces mots tout simples. « Je vous salue », verset 9. Et c'est lui, cette fois, qui leur demande d'aller dire aux disciples qu'ils doivent aller le retrouver en Galilée. Alors aujourd'hui, si on va de Jérusalem en Galilée, j'ai fait une petite recherche sur Google Maps, nos amis de chez Google estiment qu'il faut 31 heures de marche en suivant la route 65. Mais je soupçonne fort que la route 65 n'existait pas du temps de Jésus. Il fallait donc compter sans doute bien plus de temps que cela encore, plusieurs jours de marche. Les 11 disciples donc, c'est-à-dire le groupe des 12 apôtres moins Judas, se rendent en Galilée sur une montagne que Jésus leur avait désignée, nous dit le verset 16. Alors on ne sait pas de quelle montagne il s'agit. Matthieu est le seul des quatre évangélistes à signaler cette montagne. En tout cas, les 11 savaient de quoi il s'agissait, ils savaient où aller. Et le texte nous dit ceci au verset 17. « Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Surprenant. On ne sait pas exactement en quoi ces doutes ont consisté. Ce qui peut surprendre, c'est que on voit en lisant Luc et Jean que certains des disciples au moins avaient déjà vu Jésus le jour même de sa résurrection. Alors pourquoi douter encore maintenant? Mais n'oublions pas que les disciples avaient vu Jésus pousser son dernier soupir quelques jours auparavant à Golgotha. Et la pensée humaine ne peut pas tout simplement intégrer sans difficulté l'évidence d'un retour à la vie de quelqu'un qu'on a vu mourir. Par ailleurs, plusieurs indices dans les récits de résurrection nous montrent que Jésus était reconnaissable et en même temps qu'il y avait quelque chose de différent qui faisait qu'on hésitait. Est-ce bien lui ? C'est d'ailleurs un signe supplémentaire de l'authenticité de ces récits. Pourquoi signaler ce détail si on veut absolument persuader de quelque chose qu'on invente ? On hésitait. Est-ce bien lui ? Dans l'évangile de Luc, les disciples qui marchent avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs passent un après-midi entier avec lui avant de le reconnaître. Marie-Madeleine, nous dit Jean, a d'abord pris Jésus pour un jardinier. Et les disciples qui prennent un repas sur la plage avec Jésus, Jean 21, n'osent pas lui demander « Qui es-tu ?» parce que, nous dit Jean, il savait que c'était le Seigneur. C'est comme si, tout en étant parfaitement humain dans son apparence, il y avait quelque chose chez Jésus qui était d'un autre monde et que les disciples n'arrivaient pas à cerner. Non pas une grande lumière ou quelque chose de spectaculaire comme on aurait pu justement l'écrire dans un récit inventé, mais quelque chose d'insaisissable. Le théologien britannique N.T. Wright écrit à ce propos « C'est ici que la crainte et le tremblement doivent nous saisir. » Dans notre texte, c'est sans doute à cela que nous avons affaire à nouveau. Les disciples voient Jésus devant eux, mais est-ce bien possible? D'une autre manière, peut-être que ce matin, certains doutent de cet événement que nous célébrons. Jésus est-il vraiment ressuscité? Est-il vraiment avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps et en ce moment, vous avez du mal à affirmer cela avec confiance. Et peut-être que vous n'osez pas reconnaître cette difficulté à croire. Il est réconfortant de voir avec quelle simplicité et honnêteté l'apôtre Matthieu, qui était présent sur cette montagne, reconnaît que certains parmi les disciples ont douté d'une manière ou d'une autre, alors même que Jésus était là, devant leurs yeux. Et il est frappant de voir que Jésus ne rejette pas ici ceux qui doutent, mais il ne les laisse pas non plus en proie à leurs doutes. Il leur confie une mission. Verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Jésus, en fait, répond aux doutes de ses disciples en les envoyant. Et je crois que c'est profondément révélateur. Dieu nous invite à faire l'expérience de sa présence active à nos côtés, dans le cadre de cette mission qu'il nous confie. Le meilleur moyen de sortir du doute, c'est de répondre à l'appel de Jésus, à être ses témoins. Plus on restera à l'écart du Seigneur en essayant de résoudre tous nos questionnements abstraits avant de le suivre, plus nous risquons de le perdre de vue et par un cercle vicieux de douter encore plus. Mais parce que Jésus est vivant, il ne nous laisse pas seuls avec nos doutes. Il nous invite à le connaître personnellement. Et nous n'avons pas à nous cramponner à la foi comme à une abstraction, une simple confession de foi à laquelle il faut absolument s'accrocher au mépris de la vraie vie qu'on vit tous les jours. Parce que Jésus est ressuscité dans la vraie vie. Il n'y a rien de plus concret que ce qui s'est passé ce jour-là. Après sa résurrection, lors de ses rencontres avec ses disciples, Jésus n'a pas flotté dans les airs. Il a mangé avec eux, il a parlé avec eux, ils l'ont touché. La résurrection de Jésus est la preuve que Dieu ne méprise pas ce monde, mais qu'il veut au contraire le transformer sous l'autorité de son Fils. Et c'est pour cela qu'il envoie les disciples en mission dans le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On remarque qu'il ne leur dit pas « Allez vous retirer au Tibet, chantez des psaumes et attendez mon retour ». Mais il leur dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Parce que Jésus est ressuscité, les disciples surmontent leurs doutes. Il est d'ailleurs frappant qu'avant même que leurs doutes ne soient mentionnés, les onze se prosternent devant Jésus, reconnaissant par là l'autorité qu'il allait lui-même revendiquer juste après. Et c'est ce point, l'autorité de Jésus, qui va retenir maintenant notre attention. Parce que Jésus est ressuscité, les disciples lui prêtent allégeance, le reconnaissent comme roi. L'image est frappante. Les onze disciples gravissent la montagne, après des jours de marche donc, et à un moment donné, ils le voient. Le texte ne nous donne pas beaucoup de détails. Il semble, on a l'impression qu'il se soit alors arrêté, saisi encore une fois peut-être par le miracle stupéfiant, tremblant de crainte et d'émerveillement face à la vie qui a triomphé de la mort. Et ils n'osent pas aller plus loin, puisque le texte nous dit que c'est Jésus qui vient vers eux. Mais ils se prosternent. Tout au long de leur ministère, ils ont entendu Jésus affirmer qu'il venait de Dieu, qu'il était venu inaugurer le royaume de Dieu, qu'il était lui-même le roi d'un royaume d'un autre monde. Et ce jour-là, sur la montagne galiléenne, c'est devant le roi qu'ils se prosternent. Le roi qui revient de la bataille, une bataille que les mots ne seront jamais adéquats pour décrire, une bataille contre le mal et la mort qui ronge le monde et l'humanité depuis des millénaires. Et Jésus est sorti vainqueur de ce combat. J'ouvre ici une toute petite parenthèse. La résurrection de Jésus peut évoquer dans notre esprit ces romans ou ces films où après une terrible épreuve, le héros triomphe. Et certains pourraient être tentés de se dire, finalement, le récit de Pâques, ça fait partie de ces fictions qu'on a envie de se raconter. Mais je pense au contraire que si nous rêvons de ces choses, c'est parce qu'elles correspondent à une profonde aspiration que Dieu a placée dans l'être humain. Il nous a créés pour lui, et en nous détournant de lui, nous nous sommes retrouvés avec ces désirs d'éternité, de paix, de plénitude, de joie. Et nous exprimons ces désirs dans l'art, dans la culture. Et nous essayons de chercher dans 10 000 causes, dont certaines sont louables, très louables même, cette plénitude, mais elles ne peuvent pas répondre profondément à cette aspiration. Or, la résurrection de Jésus correspond à la concrétisation de ces aspirations, et la réponse à ces aspirations. En lui, il y a la paix. En lui, il y a l'éternité. En lui, il y a la victoire sur le mal et la mort. Par la résurrection de Jésus, Dieu a dit oui à ses aspirations profondes du cœur humain. Et il nous dit que ses désirs ne sont pas vains, mais qu'il les a comblés par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si ces choses nous touchent profondément et trouvent écho en nous, c'est parce que celui qui a ressuscité Jésus est aussi celui qui nous a créés avec ses aspirations. C.S. Lewis écrivait « Si je trouve en moi un désir que rien au monde ne peut satisfaire, c'est que j'ai été créé pour un autre monde. » Et c'est précisément cet autre monde qui a été inauguré par la résurrection de Jésus. Alors, je ferme cette parenthèse et je voudrais que nous arrêtions quelques instants sur cette réaction des disciples qui voient Jésus et qui se prosternent devant lui. On voit que leur première réaction n'est pas de lui sauter au cou en disant « Quelle joie de te revoir !» Même si assurément ils étaient heureux de le revoir. Ce n'est pas non plus de lui dire « Merci pour ce que tu as fait à la croix !» Même si assurément ils étaient reconnaissants. Et ils comprendront de mieux en mieux au fil du temps ce que Christ a fait pour eux à la croix. Mais leur première réaction a été de se prosterner devant le roi. De reconnaître son autorité, de lui prêter allégeance. Et cette autorité, Jésus la revendique pleinement. Il ne leur dit pas « Non, non, c'est pas la peine. » Il leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Verset 18. Quelque temps plus tôt, Jésus avait appris à ses disciples à prier Dieu en lui demandant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et désormais, il leur dit qu'il est le roi légitime sur la terre comme au ciel. Autrement dit, c'est en lui et par lui que Dieu fera sa volonté. La résurrection de Jésus prouve que Dieu est en train d'exaucer la prière du Seigneur. Il a donné à son Fils toute autorité. Cette déclaration royale de Jésus, elle rappelle, entre autres choses de l'Ancien Testament, elle rappelle tout particulièrement une vision du prophète Daniel, plusieurs siècles plus tôt. Écoutez ce que rapporte Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » En affirmant que toute autorité lui a été confiée sur la terre comme dans le ciel, Jésus se présente ni plus ni moins comme le souverain légitime de toute l'humanité et de tout l'univers. Et la résurrection de Jésus est la preuve que tout ce qu'il avait dit à propos de lui-même auparavant est vrai. Si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est bien le Fils de Dieu. Si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est bien le chemin, la vérité et la vie. S'il est ressuscité, c'est qu'il est bien celui qui exercera le jugement au dernier jour. S'il est ressuscité, le destin de chaque homme, chaque femme est entre ses mains. Et non seulement le destin de ceux qui ont confié leur foi, leur vie à Christ, mais le destin de tous les hommes. Lorsque nous disons « Jésus est Seigneur », nous devons bien prendre conscience de ce que nous disons. Dire qu'il est Seigneur signifie qu'il a tous les droits sur ma vie. Il est propriétaire de mon être. Je lui dois mon obéissance sans condition. Alors oui, c'est un peu choquant de dire cela dans un monde pluraliste comme le nôtre. D'ailleurs, ce que nous disons dimanche après dimanche, au cas où cela avait échappé à quelqu'un, est profondément choquant aux yeux de ce monde. Mais c'est précisément parce qu'il n'a pas reconnu son roi. Et nous-mêmes, de bien des manières, nous oublions aussi souvent qu'il est notre roi. Heureusement, Dieu est patient. Et il patiente encore. Il invite encore à chaque instant des hommes et des femmes de toute nation à venir vers lui. Et il nous offre le privilège magnifique d'être les agents de cette mission de reconquête du monde. C'est notre dernier point. Parce que Jésus est ressuscité, ses disciples deviennent ses témoins. Jusqu'ici, dans les évangiles, les disciples ont été ceux qui suivent Jésus et qui croient à ses paroles. Ils le sont toujours. Mais après la résurrection, leur rôle prend une dimension nouvelle. Ils deviennent ses témoins auprès de toutes les nations. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque nous assistons à quelque chose qui est hors du commun, lorsqu'il nous arrive, lorsqu'on assiste à une scène, par exemple, hors du commun, très naturellement, on ressent le besoin d'en parler. Ou bien on prend une photo pour le montrer. Être témoin de quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de très naturel en nous. Un jour, quelqu'un, il y a longtemps, quelqu'un est arrivé à une réunion de jeunes adultes ici à la rue de Sèvres en disant « Je viens de croiser Claudia Schiffer dans la rue ». Moi, c'est Lionel Jospin que j'avais croisé une fois à la rue de Sèvres, alors chacun son registre. Mais là aussi, je me suis senti obligé de le dire à quelques personnes après quoi, je viens de voir Lionel Jospin. Il fallait que j'en témoigne. À bien plus forte raison encore, lorsque nous apprenons une bonne nouvelle qui nous touche personnellement ou bien de quelqu'un que nous aimons, eh bien, nous ressentons le désir d'en parler. Pourquoi inscrivons-nous chaque naissance dans le bulletin ? Alors, pour la prière, bien sûr, mais aussi parce qu'il est naturel de vouloir annoncer une bonne nouvelle. Et en ce sens, la mission que Jésus confie ici à ses disciples, elle est naturelle. Ils ont été témoins de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Comment ne pas l'annoncer partout ? Mais il y a plus ici que la simple joie d'annoncer une bonne nouvelle. Comme nous l'avons vu, celui qui affirmait être le Fils de Dieu et le Sauveur du monde, il vient de prouver qu'il est bel et bien le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et par conséquent, sa mort comme sa résurrection concerne tout le monde, sans exception. Si vous êtes comme moi, sûrement pas le cas de tout le monde, mais vous avez peut-être parfois tendance à vivre le témoignage, ou cet appel au témoignage comme un fardeau. Nous nous crispons en nous disant que nous n'avons peut-être pas rempli une sorte de quota de personnes auprès desquelles nous avons récemment parlé du Seigneur. Peut-être faut-il retrouver cet émerveillement et ce désir tout simple d'annoncer une bonne nouvelle, de faire part à ceux qui nous entourent de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, que nous croyons et qui a transformé nos vies. Alors c'est vrai, nous n'avons pas vu le ressuscité de nos propres yeux. L'apôtre Pierre écrira « Sans l'avoir vu, vous l'aimez ». Mais nous bénéficions de leur témoignage oculaire. Lorsque Jésus envoie les 11 en mission, c'est aussi pour qu'ils puissent transmettre ce dont ils ont été témoins, jusqu'à 20 siècles plus tard, jusqu'à nous. Et la mission que Jésus leur a confiée est encore la nôtre. « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. » Et enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Trop souvent, lorsque nous pensons à la résurrection de Jésus, nous pensons à une sorte de happy end de l'histoire de Jésus, sans bien prendre conscience de ce que cet événement implique. Si Jésus est ressuscité, alors nous sommes envoyés. C'est aussi simple que cela. Cet envoi concerne l'Église dans sa dimension universelle, comme dans ses communautés locales. Et chacun au sein de ces églises, vous et moi, frères et sœurs, chacun est invité à prendre sa part à cette mission commune. Alors pourquoi sommes-nous envoyés ? D'abord pour faire des disciples. Jésus-Christ, roi légitime du monde entier, rassemble son peuple. Il envoie ses témoins apporter sa convocation royale. Et ceux qui ont répondu à cet appel sont appelés à le relayer eux-mêmes, et ainsi de suite. Si Dieu n'a pas encore mis fin au monde présent, nous l'avons déjà dit, c'est parce qu'il est encore en train de rassembler son peuple. Un peuple qui, au départ, ne formait que, tout au plus, quelques centaines de personnes. L'apôtre Paul dit qu'il y a tout de même eu environ 500 témoins de la résurrection. Quelques centaines de personnes au tout début, et qui maintenant est un peuple fait au moins de centaines de millions de personnes à travers le monde, peut-être même plus. Ensuite, Jésus appelle ses disciples à baptiser ceux qui auront été enseignés. Les baptiser, c'est-à-dire les inviter à prendre publiquement position pour Jésus-Christ et à signifier par l'immersion dans l'eau qu'ils sont passés de la vie sans Jésus à la vie avec Jésus. Qu'ils sont passés du monde présent qui passe au monde éternel à venir, de la mort à la vie. Enfin, Jésus appelle ses disciples à enseigner ceux qui sont devenus disciples. Être disciple, c'est pour la vie. Et les disciples auront du mal à tenir la distance s'ils ne se nourrissent que de slogans réducteurs, de petites religiosités simplistes. On ne nourrit pas un marathonien en lui donnant du pop-corn ou une barbe à papa. On lui donne des choses consistantes. Nous avons besoin de choses consistantes. Nous avons besoin de nous nourrir jour après jour de la pensée la plus profonde et la plus puissante qui soit, celle de Dieu. Or, Jésus l'a dit, ses paroles sont celles que lui a confiées le Père. Il y a là un rappel précieux pour nous que annoncer la bonne nouvelle ne sert pas à grand-chose si on n'est pas prêt à enseigner ensuite. On ne peut pas dire à nos contemporains qu'ils doivent se tourner vers Jésus et ensuite les priver de la richesse de l'enseignement de Jésus. Or, pour enseigner, nous avons besoin d'être enseignés. Alors, cela passe par l'enseignement dans l'église locale, de façon formelle, mais aussi par l'aspiration de chacun d'entre nous à en savoir toujours plus sur celui qui est notre raison d'être. Et dans ce sens-là, à nous exhorter les uns les autres, à nous enseigner les uns les autres sur la base de la parole. Dieu ne nous appelle pas tous à devenir des théologiens, mais il nous appelle tous à être à son école. Alors, ne lui laissons pas les miettes de notre intelligence. Quelle tristesse ce serait si nous utilisons notre intelligence pour le travail, éventuellement les hobbies et la famille, mais pour Dieu, on laisse des miettes. Plongeons-nous, je vais y arriver, dans la richesse de sa parole. Faire des disciples de toutes les nations, baptiser, enseigner. Voilà une mission pour laquelle nous ne sommes absolument pas qualifiés par nous-mêmes. Mais la dernière phrase de l'évangile de Matthieu change tout. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tout au début de l'évangile de Matthieu, l'enfant Jésus a été présenté comme celui qui serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ici, à la fin de l'évangile, c'est lui-même qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus nous confie une mission, mais c'est lui qui nous donnera à chaque instant les moyens de la remplir. Alors comment répondre à son appel ? Commençons par demander à Dieu de nous donner les forces et les ressources nécessaires pour contribuer à sa mission. Demandons-lui de susciter ces occasions que nous avons du mal à susciter par nous-mêmes, que nous n'arrivons pas à trouver par nous-mêmes. Redisons-lui aujourd'hui que nous sommes disponibles. Et soyons ensemble ce peuple qui est appelé à montrer, dans ce monde qui passe, qu'en Jésus-Christ, le monde nouveau est déjà là.